Le 13-14, Jacqueline Fardel.
Bonjour. Journée décisive pour le Parti Socialiste. Le parti sous haute tension soumet ce soir à son Conseil National l'accord adopté avec la France Insoumise et les autres forces de gauche pour les législatives. Un parti divisé ce matin, une nouvelle voix appelle à valider l'accord. Voix d'un poids lourd, la maire socialiste de Lille, Martine Aubry, ancienne ministre du gouvernement Jospin. Et du côté de la majorité, la revue de troupes se termine. Emmanuel Macron doit valider aujourd'hui une première salve de candidats LREM pour juin prochain. Des amas de corps et de ferrailles. 30 ans après le drame de Furiani, les images encore dans les esprits. Il ne faut pas oublier, nous dira Jean-Pierre Papin, ancien de l'OM, qui était sur le terrain le jour du drame, le 5 mai 1992. Élection périlleuse pour Boris Johnson en Royaume-Uni, des élections locales aux azures de référendum après le scandale des fêtes organisées durant le confinement. À l'étranger encore, en Ukraine, une trêve attendue à Mariupol pour évacuer les civils. Pékin, en Chine, au bord du confinement malgré de très rares cas de Covid. Invité de la deuxième partie du 13-14, François Allu, le danseur de l'Opéra de Paris, récemment nommé Étoile. Vos questions au 01 45 24 7000 et via l'application France Inter, rubrique Réagir. Un livre inédit de Céline apparaîtra aujourd'hui chez Gallimard. Les dessous de cette réapparition dans le vif de l'histoire avec Jean Lebrun. Et autre réapparition qui va rappeler des souvenirs à beaucoup, le comeback de la cassette audio. Bienvenue dans ce 13-14.
France Inter. Le 13-14.
La séance promet d'être houleuse ce soir au Conseil national du Parti socialiste. Ses 300 membres doivent se prononcer sur la proposition d'alliance avec la France insoumise pour les élections législatives. Alliance déjà acceptée en début de semaine par les communistes et les écologistes. Le PS a donc cédé à son tour, mais à quel prix? Les négociateurs n'ont obtenu que 70 circonscriptions. Des territoires entiers n'auront pas de candidat PS. Concession aussi sur le programme. Interminable bras de fer qui a donc laissé des traces. Bonjour. Bonjour Antoine Gignoux.
Bonjour.
Où en est-on ce midi?
En théorie, la balance penche ce midi en faveur de l'accord parce qu'Olivier Faure, le premier secrétaire, et ses lieutenants sont soutenus par la majorité des représentants socialistes et plusieurs figures du PS comme Martine Aubry à Lille, les maires de plusieurs grandes villes, Rennes, Cherbourg, Clermont-Ferrand, Nancy, Nantes et Villeurbanne. Pourtant, les cadres du parti le disent, ce vote est loin d'être une formalité. Pas question de négliger le poids des éléphants du PS, le départ de Bernard Cazeneuve qui rend sa carte d'adhérent, l'opposition affichée de François Hollande, les déclarations de Jean-Marc Ayrault qui parle de rafistolage peuvent faire basculer le vote de ce soir. Et le malaise est perceptible chez les députés. Valérie Rabault, chef de file du groupe socialiste à l'Assemblée, l'a fait savoir en interne, elle ne veut pas de cet accord. Pas plus que Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, soutient localement des candidatures alternatives.
Il va donc falloir convaincre et rassurer ce qu'a tenté de faire encore ce matin le numéro 1 du parti, Olivier Faure, sur BFM. Le PS ne disparaîtra pas, assure-t-il.
Si vous me demandez s'il y a une forme de soumission aux insoumis, la réponse est clairement non. Il y a un accord, la volonté de construire une coalition avec des divergences qui se maintiendront et puis aussi des points de convergence qui sont tellement nombreux qu'il serait complètement fou de passer à côté et de considérer que parce que nous avons des désaccords, nous ne pouvons pas gouverner ensemble. Je pense exactement l'inverse.
Alors clairement, Antoine, Jean-Luc Mélenchon en position de force après son score à la présidentielle est donc parvenu à ses fins. Les insoumis restent les grands gagnants de la partie.
Oui, avec près de 350 circonscriptions qui leur sont réservées. C'est une réussite colossale pour un parti qui n'est pour l'instant implanté nulle part. Aucune grande ville, aucune région, aucun département, quel que soit le résultat. Les législatives donnent donc aux insoumis une occasion unique de créer des ancrages locaux et durables.
Oui, Conseil national donc du PS ce soir à 19h. Et les électeurs de gauche dans tout ça, que vont-ils faire? En Creuse, par exemple, ils n'auront pas le choix, il n'y aura qu'un seul candidat à gauche. A priori, la chef de file de la France insoumise, Catherine Couturier, sur une terre historiquement socialiste, la pilule passe plus ou moins bien, Flavien Groyer.
Sur le parking du supermarché, Martine pousse son caddie, elle est très déçue, elle vote socialiste depuis toujours. Et elle aurait préféré un candidat issu du PS pour les législatives en Creuse.
C'est regrettable que quelqu'un du Parti Socialiste ne puisse pas se présenter à gauche. Le Parti Socialiste avait peut-être ses chances quand même.
Pierrette et Franck rangent leurs courses dans le coffre de leur voiture. Pour eux, peu importe l'étiquette, le plus important, ce sont les idées.
C'est pas la personne en elle-même, hein, c'est son programme. Il faudra voir ce qu'ils peuvent nous promettre et exécuter surtout.
Du moment que ce soit une force de gauche, moi ça me va.
Ils voteront tous les deux pour le candidat de l'Union nom de la gauche en juin, mais Franck craint qu'elle se fissure avant le premier tour.
Je vais quand même attendre de voir si ça se bagarre pas trop. D'accord. Parce que c'est ça, quoi, la crainte. En fin de compte, si on suit, on s'aperçoit que c'était surtout le nombre de députés, quoi, qu'ils ont essayé de défendre. Les idées peut-être un peu moins.
Avis partagé par Jean-Marc qui demande de la clarté sur le programme commun.
La divergence entre les socialistes et la France insoumise au niveau de l'Europe, il y a des choses qu'il faut mettre à plat et de façon à ce que la population entende bien ce qui va être du positionnement de cette union.
Ces électeurs de gauche attendaient avec impatience cette union, mais auraient préféré qu'elle se concrétise avant la présidentielle.
Flavien Groyer de France Bleu Creuse. La gauche accélère son union, le chef de l'État lui prend son temps. Emmanuel Macron, qui ne désignera pas son Premier ministre avant plusieurs jours, mais il rend aujourd'hui les premiers arbitrages pour les législatives, les premiers noms dévoilés aujourd'hui. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Une liste de 250 noms, mais pas de groupe unique.
Oui, Emmanuel Macron renonce à son projet d'un parti et d'un groupe unique à l'Assemblée. François Bayrou et Édouard Philippe ont obtenu gain de cause. Ils auront chacun leur lieutenant dans l'hémicycle. Ce sera donc une majorité à trois têtes. La République En Marche, le Modem et Horizon, avec évidemment des marcheurs majoritaires. Depuis samedi dernier, les réunions s'enchaînent sans éclat de voix, nous assure-t-on. Le maire du Havre a peu à peu trouvé son compte. La rupture n'était de toute façon pas envisageable. Avec le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, et avec François Bayrou, ils vont tenir à 15h une conférence de presse pour y afficher leur plus beau sourire et donc leur unité.
Et ce matin, on apprend que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonce qu'il ne se représente pas.
J'ai toujours dit que je ne ferai pas plus de 3 mandats. Une circonscription n'est ni un droit ni une rente, a lancé Bruno Le Maire ce matin à Évreux. Il laisse sa suppléante partir dans la bataille sans évidemment quitter la scène politique. Il espère rester au gouvernement comme Éric Dupond-Moretti qui finalement renonce à être candidat aux législatives dans le Nord. Jean-Michel Blanquer lui prend bien ce risque, comme nous vous l'avions annoncé, à Montargis, dans le Loiret. Gérald Darmanin repart dans sa ville de Tourcoing, il l'a officialisé ce matin. En tout, 19 membres du gouvernement en campagne sur 40, la moitié dont donc, il cherche une légitimité, une force pour ne pas dépendre uniquement d'Emmanuel Macron.
Merci Maxence Lambrecq. Après un long hiver lié à la crise sanitaire, Air France KLM espère un bel été. Visiblement, les passagers sont en demande. Ils comptent bien profiter de la haute saison. Les réservations sont solides, assure l'entreprise franco-néerlandaise. Air France KLM optimiste donc, malgré le contexte défavorable avec la guerre en Ukraine notamment et l'inflation des carburants. Bonjour Philippe Lefebvre.
Bonjour.
Les voyants sont donc plutôt verts.
Oui, on pourrait parler d'un optimisme raisonnable. Alors effectivement, la demande est là, mais on est encore très loin de la fréquentation d'avant la crise sanitaire. Au premier trimestre, le groupe franco-néerlandais a reçu plus de 14,5 millions de passagers, contre un peu moins de 23 millions en 2019. Mais la tendance est bonne, reconnaît-on chez Air France, qui pour l'été prévoit une capacité de vol de 85 à 90% de ce qu'elle était en 2019. Initialement, on ne prévoyait pas une telle reprise avant 2024. Et symbole également de cette reprise, Transavia, la filiale low cost du groupe, fera voler l'été prochain 60 avions contre 38 en 2019. Toutefois, cette reprise risque tout de même d'être plombée par la hausse du prix du kérosène, conséquence de la situation en Ukraine, car il faut savoir que le carburant représente entre 20 et 30% du coût d'un vol. Donc fatalement, il y aura des hausses de prix de billets, autour de 50 euros en plus pour un vol long courrier, un Paris-New York par exemple, ou 10 euros de plus pour un vol moyen courrier en Europe ou dans le bassin méditerranéen.
Philippe Lefebvre, et pour partir en vacances, encore faut-il avoir ses papiers en règle. Ça se bouscule pour refaire sa carte d'identité ou son passeport. Après l'arrêt lié à la crise sanitaire, les délais sont parfois impressionnants. Parfois plus de 2 mois pour obtenir un rendez-vous en mairie. Le gouvernement a proposé un plan d'urgence, 50 000 créneaux proposés en plus chaque semaine. Ça ne suffira pas forcément pour ceux qui sont pressés. Alors on cherche des solutions, des plans B. Et il y en a un à la mairie de Vaugneray, près de Lyon. Une des seules en France à proposer des créneaux sans rendez-vous tous les mardis et jeudis matin. Et ce sont des personnes de toute la France qui viennent, parfois en faisant même du camping sur place. Vous y étiez ce matin, Ninoc Louis.
7h30, les yeux pleins de sommeil, Apolline guette l'ouverture de la mairie. Elle a passé toute la nuit devant.
Dans les voitures. On est arrivé hier en fin d'après-midi.
Ils sont une soixantaine pour 25 créneaux seulement.
J'ai fait toute la route de Saint-Etienne. Je suis arrivée, il était 20h45 à peu près. Et là, ils m'ont dit, t'es la 26e personne.
Fatima a quand même décidé d'attendre.
On est resté debout toute la nuit. On n'a pas bougé. Il s'est mis à pleuvoir beaucoup, beaucoup. Donc on avait vraiment très, très froid.
8h30, les portes s'ouvrent.
On va prendre les 20. 25 premiers. On va vous distribuer un numéro, donc ça vous permettra de passer. Moi, je suis Daniel Julien, maire de Vaugirard. Nous, on avait maintenu ce service, c'est pour dépanner les gens, hein. Mais bon, on va pas pouvoir faire face tout seul à ce besoin-là, hein.
Moi, par exemple, je viens de Paris, je suis là à 23h.
Mais nous, on est là depuis 18h, hein.
Courbière Christelle.
C'est bon, pour Mélia et sa fille.
Ça vaut de l'or. On est déjà venu lundi vers minuit, il y avait plus de place, on est rentré chez nous. Et on a retenté hier soir, du coup. Et c'est bon.
Alors, je vais prendre le justificatif.
Je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui, on soit à des délais de cette importance.
Béatrice Dumortier, la deuxième adjointe au maire.
Je ne peux pas proposer un rendez-vous avant le mois de septembre pour avoir accès à un papier d'identité. On pallie au manquement des autres, mais il y a un moment, c'est plus acceptable.
La mairie n'ouvrira donc plus de créneaux sans rendez-vous, mais en proposera au-dessus de ce matin. Lyon, Ninoc Louis, France Inter.
Reportage de Ninoc Louis, donc, à la mairie de Vaugirard.
France Inter, le 13-14, Jacqueline Fardel.
Au Royaume-Uni, les Britanniques ont commencé à voter ce matin, élection locale pour élire 4400 conseillers locaux en Angleterre, Écosse et Pays de Galles. Et après le scandale du Partygate, ces fêtes organisées pendant le confinement et l'épidémie de Covid-19, c'est un test grandeur nature pour Boris Johnson, le Premier ministre, embarrassé aussi par la hausse des prix. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Correspondant de France Inter en direct de Londres, ce sont surtout les députés conservateurs qui vont analyser ce vote dans le détail.
Oui, parce qu'ils pensent déjà à leur siège et aux élections générales dans 2 ans. Grâce à Boris Johnson, les conservateurs ont raflé une majorité incroyable fin 2019 dans la foulée du Brexit. Mais depuis un an, Bojo multiplie les erreurs de forme et de fond. La popularité du Premier ministre s'est effondrée, entraînant celle du parti dans sa chute. Alors aujourd'hui, la défaite est assurée dans ce scrutin local. Le parti au pouvoir va perdre des sièges, il le sait, avec des endroits symboliques comme le quartier de Westminster, celui du Parlement et des ministères. Il a toujours été tenu par les conservateurs. Une défaite à cet endroit-là serait terrible. Au niveau national, perdre plus de 350 sièges, ce serait une lourde défaite. Johnson serait encore un peu plus fragilisé, mais au point de le destituer, ça ce n'est pas sûr. Les députés restent prudents, même ceux qu'ils détestent, parce que personne n'émerge pour le remplacer, et limoger un Premier ministre sans solution de rechange, c'est extrêmement risqué.
Et les premiers résultats sont attendus dans la nuit. L'Irlande du Nord vote également aujourd'hui pour les députés. L'Irlande du Nord qui vit peut-être une journée historique selon les sondages. Le parti irlandais Sinn Féin pourrait remporter les législatives locales, une première pour un parti nationaliste. Et ça pourrait entraîner une véritable crise politique dans le pays. Les résultats là ne sont pas attendus avant demain soir ou même ce week-end. Des couloirs humanitaires fonctionnent ce matin à Mariupol, assure le Kremlin. La Russie qui a promis un cessez-le-feu unilatéral de 3 jours autour de la Syrie de Mariupol, dernier bastion de résistance ukrainienne dans cette ville portuaire stratégique. Mais les combats continuent dans le reste de l'Ukraine, offensive freinée par l'aide militaire des Occidentaux, affirme encore le Kremlin. L'aide aussi en matière de renseignement. Le New York Times assure que l'aide américaine a permis à Kiev de viser et parfois de tuer plusieurs généraux russes. Bonjour Eric Biegala.
Bonjour Jacqueline.
Information corroborée en partie par le Conseil de sécurité nationale américain ce matin et qui confirme donc que le renseignement américain fourni à l'Ukraine est désormais opérationnel.
Oui, dès le début du conflit, Washington confirmait tout à fait officiellement fournir du renseignement militaire aux Ukrainiens, mais pas en temps réel et pouvant servir uniquement en défense, pas pour monter une attaque par exemple. Tout a changé début avril, confirmait mardi le patron de l'état-major interarmes, le général Mark Milley, devant une commission du Sénat américain. Les vannes du renseignement sont désormais ouvertes en grand, affirmait-il, un flux d'informations transmis en temps réel et directement opérationnel. Alors s'agissant des généraux russes, ce sont les mouvements de leurs quartiers généraux de campagne, voire de leurs véhicules particuliers qui ont été signalés aux Ukrainiens. Les satellites espions et autres systèmes de repérage et d'écoute occidentaux, américains en particulier, peuvent parfaitement déterminer ces mouvements. À charge pour les Ukrainiens de corroborer l'information sur le terrain et de monter ensuite une opération de ciblage en règle.
Alors, est-ce que ce renseignement américain est indispensable à l'armée ukrainienne pour conduire sa guerre?
Le renseignement ukrainien est déjà tout à fait conséquent et parfaitement fiable. Et puis, les Ukrainiens peuvent aussi compter avec les erreurs monumentales commises par les officiers russes, comme celle, par exemple, de communiquer avec leurs subordonnés sur de simples téléphones portables, non cryptés, communication facilement interceptée et localisée par les services de renseignement ukrainiens. La semaine dernière, c'était le patron de l'armée de Moscou, le général Valery Gerasimov, qui était sur le terrain, près de la ville d'Izium. Et là, les Américains assurent n'avoir transmis à Kiev aucun renseignement renseignements à son sujet. Le convoi du chef d'état-major russe a pourtant été pris pour cible par une salve de lance-roquettes multiples ukrainiens. Il y aurait plusieurs dizaines de victimes. En tout, au moins 10 officiers généraux de la Fédération de Russie ont été tués en Ukraine depuis le début de la guerre.
Moscou qui continue de montrer ses muscles. La Russie assure que son armée a simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad, des lancements électroniques sur des cibles fictives. En Chine, face à l'épidémie de Covid-19, une large partie de la ville de Shanghai reste confinée et Pékin pourrait subir le même sort. Les restrictions sanitaires se resserrent chaque jour un peu plus. Dans de nombreux quartiers, les habitants n'ont déjà plus le droit de sortir de chez eux pour seulement une cinquantaine de nouveaux cas chaque jour. Pékin, qui n'est donc pas officiellement confiné, mais c'est tout comme le récit de notre correspondant en Chine, Sébastien Berriot.
Un énorme rideau métallique empêche d'accéder à la station de métro de Serui, dans le district de Chaoyang. Hier, les autorités ont pris une décision radicale, fermeture d'une soixantaine de stations, représentant environ 15% du réseau de métro de Pékin. 158 lignes de bus sont également suspendues. Et dans la capitale, les quartiers confinés sont de plus en plus nombreux, une cinquantaine désormais. Les résidences sont cadenassées et les habitants n'ont plus le droit de sortir de chez eux. Le confinement n'est officiellement pas général, comme à Shanghai, mais cela y ressemble tout de même de plus en plus. Et les restrictions sanitaires ne sont pas prêtes de s'arrêter. Su Hejian est porte-parole de la municipalité de Pékin.
Pour atteindre rapidement le niveau zéro Covid et gagner la bataille contre l'épidémie, nous avons décidé de prolonger les mesures sanitaires décidées pendant les vacances du 1er mai. Et à partir d'aujourd'hui, les habitants de tout le district de Chaoyang et là où les stations de métro ont été fermées devraient pratiquer le télétravail.
Beaucoup d'habitants de Pékin évitent le plus possible les déplacements. Ils savent qu'à tout moment, ils peuvent se retrouver confinés en seulement quelques minutes. Il suffit par exemple de faire ses courses dans un magasin où un cas positif ou un cas contact a été signalé et aussitôt, vous n'avez plus le droit de sortir de votre appartement. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
Que reste-t-il du traumatisme de Furiani? C'était il y a 30 ans, le 5 mai 1992, l'Olympique de Marseille se déplace à Bastia pour une demi-finale de la Coupe de France qui crée l'événement sur l'île. Pour l'occasion, une tribune provisoire de 10 000 places est installée au stade Furiani, une tribune qui à 10 minutes du coup d'envoi s'écroule, 18 morts, 2300 blessés. 30 ans après, des commémorations organisées pour ne pas oublier, transmettre également cette mémoire aux plus jeunes, sensibilisation sur la pelouse du stade Armand Cesari, le stade de Furiani, auprès des jeunes joueurs de 8 à 10 ans. Reportage de Christophe Giudicelli.
Romain, 8 ans, défenseur droit au football club de Balagne, est né plus de 20 ans après la catastrophe de Furiani. L'effondrement de la tribune appartient pour lui à un passé lointain.
Les tribunes se sont écroulées et qu'il y a eu des blessés et des morts.
La tragédie du 5 mai, Enzo, son coéquipier, en a entendu parler en famille à l'occasion des cérémonies des 30 ans et de l'organisation de ce plateau sur le stade Armand Cesari, comme beaucoup d'enfants de son âge.
La dame du 5 mai, l'écroulement de la tribune nord du stade, ça a été régional dans les journaux et tout. On entend encore un petit peu parler de ça.
En amont, les entraîneurs des différents clubs ont évoqué le 5 mai avec leurs jeunes joueurs, une génération demandeuse d'informations. Rémi, 7 ans et demi, est attaquant à Ghisonaccia Chaprouni.
J'ai vu la dernière fois, quand je suis passée à côté du stade, les fleurs. J'ai demandé à ma mère de voir une vidéo sur ce grand stade où les tribunes se sont effondrées pour avoir des conseils. C'était triste que tous les gens sont morts qui étaient dans la tribune.
Le 5 mai 1992, une tragédie, mais surtout un travail de mémoire qui continue année après année.
Un reportage de France Bleu, Frequenza Mora. Et pour transmettre cette mémoire, un film également présenté aujourd'hui au grand public, 5 mai 1992, première fiction à revenir sur le drame. On vit à travers les yeux d'un enfant la journée qui précède la catastrophe. Ce drame, il reste à jamais gravé dans la mémoire du sport français, évidemment des footballeurs de Marseille. Comme vous, Jean-Pierre Papin. Papin, bonjour.
Bonjour.
Ancien international, ancien grand nom de Marseille, quelle image vous gardez de cette tribune effondrée ce 5 mai 1992 ?
Une image terrible encore. C'est une plaie aujourd'hui qui s'est toujours pas refermée. Tout simplement parce que quand on vient jouer un match de football, on ne s'attend pas à ce qu'on a vécu.
Justement, vous qui étiez sur le terrain, vous avez eu conscience du drame qui se jouait ?
Oui, on a eu conscience du drame, on a eu le temps de bien peser tout ce qui se passait. On était dans le vestiaire au départ. On vient nous annoncer que le match est décalé parce que un morceau de la tribune est tombé. Et là, on a notre gardien qui est Pascal Olmeta, qui est corse, lui, qui est de Bastia, qui comprend de suite la gravité des choses et qui sort en courant. Et quand il rentre dans le vestiaire, il nous explique que c'est une catastrophe, c'est terrible ce qui se passe, etc. Et effectivement, quand on est sorti, il y avait cette tribune qui était complètement effondrée, des gens qui étaient cassés dans ces enchevêtrements de ferraille, et puis surtout après les hélicoptères qui atterrissent, qui partent. Voilà, c'est des scènes de guerre. Mais quand c'est un match de football, on s'attend pas du tout à ça. Quoi.
Vous avez pu aider les secours ce jour-là? Comment vous avez réagi?
Oui, on a tous aidé, tous autant qu'on était joueurs de l'OM. On est allé au chevet des uns et des autres, on a laissé nos vestes, nos maillots, etc. C'était pas bien grand-chose par rapport à ce qui se passait réellement, mais bon, je pense qu'on a, en fonction de ce qu'on pouvait faire, on a fait le maximum.
Est-ce qu'après ce drame, la sécurité dans les stades a été modifiée?
Bon, je pense que c'était pas une question de sécurité, c'était une question de tribunes montées qui n'étaient pas aux normes, c'est tout. C'était pas justement la sécurité qui était en danger. C'était tout un système qui était ce jour-là falsifié et ça a permis à des gens de s'enrichir, mais à d'autres de mourir aussi.
En mémoire justement de ces victimes, hein, 18 morts ce 5 mai 1992, les associations ont demandé à ce que ce 5 mai soit sacralisé en quelque sorte, qu'il n'y ait pas de match qui se joue. C'est quelque chose qui est important de garder cette mémoire?
Ouais, je pense que il faut pas oublier ce qui s'est passé ce jour-là. Moi, j'ai énormément d'amis en Corse aujourd'hui. On n'en parle pas spécialement parce que je pense que c'est quelque chose que on veut pas de nouveau revivre, que ce soit dans la pensée ou peu importe, parce que c'était terrible. J'ai pas de mots encore aujourd'hui pour décrire ce qu'on a vécu.
Et de quelle manière on peut justement transmettre ces mémoires, notamment aux jeunes, hein, 30 ans, c'est toute une génération?
Oui, c'est toute une génération, mais je pense que ce qui a été fait cette année avec ce film, je pense, permettra justement de garder une image claire, précise de ce qui s'est réellement passé.
Jean-Pierre Papin, ancien joueur de l'OM que nous avons pu joindre dans la matinée. Le foot, et à Marseille, 20 personnes interpellées hier soir après des affrontements entre supporters de l'OM et de Rotterdam. Pas d'incident majeur. Ce soir, en tout cas, les deux clubs s'affrontent en demi-finale de l'Europa League Conférence, la petite coupe d'Europe. Et si le match se joue en cette date symbolique du 5 mai, les joueurs porteront un brassard noir en souvenir des victimes de Furiani. Une minute de silence sera également observée. Et en Ligue des Champions, la renversante victoire du Real Madrid hier soir, qui peut dire une nouvelle fois gracias à Benzema. Renversement de situation incroyable dans les arrêts de jeu. À la 89e minute de jeu, le Real Madrid était éliminé, mené avec 2 buts d'écart par Manchester City. Mais un doublé de Rodrigo et un pénalty signé Benzema ont renversé la situation. Les Espagnols raflent la qualification aux Anglais. Et c'est toute l'Espagne qui est aux anges aujourd'hui, Mathieu de Taillac.
Le défi pour la presse espagnole est d'expliquer l'inexplicable. 3 buts en 5 minutes, après une disette pendant tout le match, une victoire quand tout semblait perdu, une qualification en finale alors que tout le stade s'était résigné à l'élimination. Alors, les journaux vont chercher leurs mots ailleurs que sur Terre. Ils sont d'un autre monde, titre le quotidien sportif AS, tandis que son concurrent à Madrid, Marca, demande à Dieu lui-même de descendre sur Terre pour nous l'expliquer. Car il s'agit bien de quelque chose de divin, d'un miracle, titre le journal conservateur ABC, qui place un Vinicius euphorique à la une. Le catalan Sport titre d'un sobre incroyable, alors que les confrères de Mundo Deportivo parlent d'un jour sans fin, car comme dans le film, le Real semble revivre à chaque fois la même journée sportive, comme face au PSG, comme face à Chelsea. C'est encore une fois une remontada à l'extrême limite qui qualifie le club. Un nouveau prodige ordinaire a qualifié Madrid, écrit El País. Pourquoi? Parce que c'est le Real, c'est réel, croyez-le. Même la presse la plus sérieuse prend aujourd'hui des accents mystiques. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
Le Real Madrid qui affrontera en finale de la Ligue des Champions Liverpool, ce sera le 28 mai au Stade de France. Des années, sans doute, que vous ne les avez pas sorties, vous les gardez au fond d'un tiroir, dans les cartons ou du grenier par nostalgie. On a tous une cassette audio cachée quelque part, suspendue depuis belle lurette, hein, par le CD, puis la musique en ligne. Eh bien, elle n'a pas dit son dernier mot, elle fait son retour dans les bacs. Universal Music propose des compilations de grands noms de la chanson française.
notamment Alain Bashung, Daniel Balavoine ou encore Johnny Hallyday. Et ce sont les plus jeunes qui la réclament, cette cassette audio. François Ballarin s'est penché sur ce retour en arrière.
Le son de la cassette audio, un bruit que les jeunes n'ont pas connu. Et pourtant, ce sont bien les millénials qui s'intéressent à cet objet star des années 80.
Les kids achètent des cassettes.
Jacques Pellet, disquaire à Paris.
Parce que avec le streaming et le MP3, on a atteint un tel niveau de médiocrité en termes de son et de rien. C'est même plus un objet. Les gens ont besoin de quelque chose de physique.
Un physique imposant, assez fragile, avec une bande audio qui s'use rapidement. La cassette n'est pas le plus pratique pour écouter de la musique. Pour Paul-François Thierry, responsable contenu chez Universal Music France, c'est justement ce que viennent chercher les jeunes.
Et les supports plus anciens, donc analogiques, comportent quelques défauts. Ces défauts créent un certain charme. Il y a plein d'éléments comme ça, un peu de la pop culture, qui font que aujourd'hui, un millénial ou quelqu'un qui est né au début des années 2000 va découvrir ça. Ça crée une forme d'intérêt.
Un intérêt bien compris par les stars mondiales de la pop, Justin Bieber ou encore Dua Lipa, proposent déjà leurs albums en cassette. Reste, pour ceux qui s'intéressent à la cassette audio, à ressortir le vieux poste ou le Walkman de ses parents.
Le reportage de François Ballarin, des Walkman qu'il faudra d'ailleurs peut-être un peu bricoler un peu avant de s'en servir, puisque le premier a été mis en service en 1979. Allez, les pubs et dans un instant la météo.
Tu seras mon père, le nouveau roman de Metin Arditi. Renato, 7 ans, est ravagé par la mort de son géniteur, enlevé par les Brigades Rouges. 10 ans plus tard, il éprouve une fascination à l'égard du professeur Mantegazza, voyant en lui un père de substitution. Renato est un garçon merveilleux, la séduction est réciproque. Mais dans une vie antérieure et sous une autre identité, Mantegazza fait partie des bourreaux. Tu seras mon père, un roman bouleversant de Metin Arditi aux éditions Grasset.
Innovation des laboratoires Lierac. Sécheresse, perte de densité, relâchement, notre peau aussi subit la ménopause. Lierac, expert de la ménopause depuis 25 ans, réinvente les soins Arc et Skin. Un programme complet visage et corps recommandé par les gynécologues pour une peau redensifiée et nourrie. 9 femmes sur 10 se sentent mieux dans leur corps et dans leur peau. En ce moment, pour l'achat d'un soin Arc et Skin jour, votre soin complémentaire nuit offert. Dans la limite des stocks disponibles en pharmacie, parapharmacie et sur lierac.com. Détails des tests cliniques sur lierac.com.
France Inter aime.
Nous l'Europe, banquet des peuples. Une grande fresque théâtrale et musicale de Laurent Godet et Roland Ozet, du 7 au 29 mai, au Théâtre de l'Atelier.
Un jour viendra nation du continent. Vous fondrez en une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne.
Avec 12 comédiens, 7 nationalités, un spectacle fédérateur pour une Europe qui est une géographie et qui devient aujourd'hui une philosophie. Nous l'Europe, banquet des peuples au Théâtre de l'Atelier, un spectacle France Inter.
Et la météo dans un instant.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous.
De la pluie sur l'Est.
Oui, l'après-midi s'annonce gris et humide entre l'Alsace, la Franche-Comté, les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Les pluies sont localisées sur le Nord-Est, mais parfois soutenues en Corse. Elles vont d'ailleurs persister jusqu'à demain matin sur la Corse, donnant des cumuls parfois importants. En montagne, il va neiger au-dessus de 1900 mètres d'altitude. Des orages sont même possibles sur les Alpes du Sud. Quelques gouttes sont aussi attendues cet après-midi le long des Pyrénées. Entre l'Occitanie, la Champagne et la Lorraine, les nuages seront plus morcelés, mais pourront donner naissance à des averses. Les averses seront moins nombreuses et moins actives qu'hier, mais quelques coups de tonnerre peuvent à nouveau éclater, notamment vers la Bourgogne ou encore vers l'Auvergne. Sur les régions de l'Ouest, l'après-midi sera plus calme, avec alternance de nuages et de belles éclaircies. Le soleil sera plus généreux sur les zones côtières de la Manche et de l'Atlantique. Le Roussillon et le Delta du Rhône auront aussi du soleil cet après-midi, mais il faudra composer avec du vent.
Et avec ce temps pluvieux, eh bien les températures vont fraîchir sur l'Est aussi.
Oui, ça c'est notable. On perd parfois 7 à 8 degrés par rapport à hier. Exemple à Mulhouse, où il fera 15 degrés cet après-midi, alors qu'il faisait 22 degrés hier. À Grenoble, on attend 16 degrés cet après-midi, après les 23 degrés hier. Pour cet après-midi, prévoyez 17 degrés à Lille, Besançon et Bastia, 18 degrés pour Rouen, Nancy et Lyon. On ira jusqu'à 20 degrés à Paris, Toulouse, Nice et à Rennes, 22 degrés à Cognac et Perpignan et 23 degrés pour Marseille.
Merci Sébastien Léas de Météo France.
France Inter, le 13-14, Jacqueline Fardel.
Il est grand temps de rallumer les étoiles, écrivait Guillaume Apollinaire. Il en est une qui vient de s'éclairer dans le studio de France Inter. François Allu vient de s'installer. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup.
À 28 ans, vous avez été nommé danseur étoile de l'Opéra de Paris. C'était le 23 avril dernier, à l'issue de la représentation de la Bayadère de Rudolf Nureyev à l'Opéra Bastille. Vous êtes aussi intégré au Ballet de l'Opéra. Ça fait déjà plus de 10 ans. C'était en 2010. Et vous êtes devenu le chouchou du public. Un fan club a même créé un hashtag Allu étoile sur les réseaux sociaux, impatient de vous récompenser par la consécration suprême de l'institution pluriséculaire. Virtuose de la danse, atypique, vous êtes aussi connu pour vos pas de côté. Vous avez pris un congé de l'opéra pour devenir membre du jury dans la saison 11 de Danse avec les stars. Vous venez d'en prendre un autre de congé pour proposer votre propre spectacle, un seul en scène, complètement jeté, en tournée en ce moment, on va en reparler. Et alors que les opéras ouvrent leurs portes ce week-end pour les journées tous à l'opéra, eh bien vous êtes avec nous sur France Inter pour un quart d'heure. Les auditeurs peuvent vous appeler, vous poser vos questions au 01 45 24 7000 ou sur l'appli Réagir sur le site internet de France Inter. Merci François Allu d'être dans les studios de France Inter. Alors il y a deux semaines, jour pour jour, le directeur de l'Opéra de Paris, la directrice de la danse, monte sur scène pour vous sacrer étoile. Est-ce que les matins sont différents depuis ce sacre ?
Tout à fait. Maintenant, je vois les étoiles tout le temps. Elles sont plus là que la nuit. Non, honnêtement, c'est évidemment, je suis très honoré de ce titre. J'étais très heureux que ma famille soit là en plus. Mon amour était dans la salle aussi. Tout le monde était présent, toute mon équipe. Donc, c'était un moment incroyable. Mais véritablement, en fait, ça ne change rien. Parce que du jour au lendemain, je pense qu'on est la même personne. À moi d'être atteint de schizophrénie ou d'une maladie un peu particulière. Mais la vie continue, suit son cours. Il y a toujours plein de projets qui émanent et toujours autant d'idées et d'hyperactivité. Donc, je me sens pareil. C'est juste que c'est un titre qui est très beau. Et je pense qu'il vient à la fois honorer le parcours de danseur, mais peut-être aussi, comme vous l'avez dit, ce côté où je me suis un peu détaché. J'ai fait ce pas de côté, j'ai commencé à écrire, à faire ce seul en scène, mais aussi des films que j'ai vendus à France Télévisions. Enfin, j'ai commencé vraiment à entreprendre, et aujourd'hui, je me définirais plus comme un artiste entrepreneur que juste un danseur étoile. Et finalement, le fait d'avoir pris comme ça cette distance, je pense que cette étoile, elle vient couronner ça. Donc, je remercie la direction générale pour ça.
Alors, juste un danseur étoile, quand même, c'est pas rien.
C'est déjà très bien.
Sur le moment là, quand vous voyez le directeur, la directrice monter sur scène, vous savez que c'est pour vous. Qu'est-ce que vous pensez?
Quand je les vois arriver, non, mais vous savez, c'est un moment un peu suspendu finalement, parce que ils arrivent et moi, à l'époque, j'avais entendu déjà des bruits de couloir. On me disait peut-être que là, c'est ce soir. Et il y a eu des espoirs, des désespoirs. Il y a eu beaucoup de choses. Et donc, je pense vraiment que je me suis détaché de tout ça. Et quand c'est arrivé, je me suis dit, on va voir. Et évidemment, si on me disait consciemment, alors est-ce que tu penses que c'est pour toi? Je dis, il y a de fortes chances. On va pas se mentir. Mais je me suis dit, mais peut-être que non. Enfin, il y avait des faibles chances, mais ça ne m'aurait pas dérangé. Ce que je veux dire, c'est que vraiment dans ma tête, moi, j'avais lâché cette quête en fait. Et c'est au moment où j'ai lâché que tout est arrivé. Donc, je pense que j'étais aligné avec moi-même, j'étais en paix et voilà.
Alors, ce 23 avril, c'était pas un jour comme les autres pour l'opéra. C'était une soirée spéciale, ma première fois à l'opéra où on accueille des familles qui n'ont pas l'habitude. Justement, vous habitués ont pu être un peu frustrés d'ailleurs de pas assister à votre sac. Mais en tout cas, peut-être que cette soirée spéciale est un peu en symbole, en résonance justement avec les valeurs que vous défendez, de démocratiser l'opéra et la danse.
Oui, absolument. Enfin, en fait, bon, c'est pas moi qui l'ai décidé, hein, vous savez, c'est arrivé comme ça et j'en suis ravi. Mais oui, je trouve ça. À la fois, j'étais déçu évidemment pour le public qui me soutient, qui est un public, je dirais, celui qui me soutient un peu à mon image, bruyant, très festif, très jovial comme ça et que j'adore. Donc j'aurais voulu que ça se passe aussi avec eux pour fêter avec eux. Certains d'entre eux étaient là aussi ce jour-là, mais je trouve ça bien effectivement que ça arrive pour des personnes dont c'était la première fois, parce que effectivement, quand on voit des enfants et qu'ils disent il y a une nomination, il y a un danseur étoile, mais on sent qu'il y a un événement un peu particulier, que ça arrive pas tout le temps et ça peut peut-être donner envie, ça peut peut-être faire donner des vocations, je sais pas. Donc oui, je trouve ça super. En tout cas, ça va dans ce sens d'ouvrir l'art à tous.
Alors Bernard nous appelle de Blois. Il a une question, une remarque pour vous. Bonjour Bernard.
Bonjour à tous. Bonjour François Allu.
Bonjour Bernard.
Bravo.
Bah, merci
c'est
beaucoup.
C'est un grand moment d'émission quand on revoit d'émotion, quand on revoit les images.
Ah bah c'est
la domination d'un danseur étoile. Et vous en particulier, quoi.
Ah bah c'est trop sympa, merci.
Moi, je vous ai pas vu sur scène, mais on peut vous voir sur Internet, bien sûr.
Je pense, hein, oui,
c'est merveilleux. quoi que soit la danse, d'ailleurs. Mais bon, là, nous sommes à l'opéra, donc. Oui, ma question, plutôt ma remarque, c'était, la nomination, donc c'est bien par le directeur, sur proposition de la directrice ou du directeur de la danse.
Absolument.
Et moi, je me dis, 28 ans, c'est bien, mais je pense que vous méritiez d'être nommé plus tôt, de mon point de vue, bien sûr. Et peut-être qu'un jury collectif restreint, il ne s'agit pas de mettre 36 personnes, mais peut-être, moi, je serais plutôt pour une décision collective concernant la nomination d'un danseur étoile.
Écoutez, Bernard, je vous invite tout de suite à rejoindre le conseil d'administration de l'Opéra de Paris. Voilà, c'est acté. Toute la direction m'a dit que c'était OK. On était au courant de votre appel. Non, je plaisante.
Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de concours, il n'y a pas de vote. Hein. C'est vraiment la discrétion de la direction. Cette
absolument, c'est que d'une seule chose. Après, bah, écoutez, c'est une suggestion intéressante. Il faudra en parler aux personnes qui ont la capacité de mettre ça en place. Mais en tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Ça me fait très plaisir. Et puis à très bientôt.
Et sur l'attente, c'est vrai que vous avez attendu ce titre d'étoile. Hein. Il arrive 8 ans après votre titre de premier danseur de la troupe parisienne. C'est rare que les interprètes attendent aussi longtemps. Quelle est votre explication ?
Écoutez, je sais pas. Je pense que je suis pas forcément le danseur idéal, adéquat, qui va forcément suivre toutes les règles qu'on va lui imposer, qui va forcément aller tout le temps dans le sens du poil, qui est prêt à tout pour obtenir un titre, en tout cas. Moi, mon intégrité artistique et ma liberté, elle est toujours passée avant tout, et c'est toujours le cas en fait aujourd'hui. Et dans une institution, en tout cas à l'époque, peut-être que c'était pas récompensé et c'était peut-être même un peu mal vu. Aujourd'hui, visiblement, les choses ont changé et j'en suis ravi. Et je pense que justement, un interprète et particulièrement un danseur étoile, c'est un individu atypique qui a ses propres valeurs, sa propre vision artistique des choses, qui est capable de prendre des choix assez uniques et qu'on remarque justement pour ses différences. À l'inverse du corps de ballet, qui est un métier très très difficile, et j'ai énormément de respect d'ailleurs pour tous mes collègues qui font ça, où il faut parfois essayer justement d'être parfaitement en ligne, être avec tout le monde. Et moi, j'étais très très mauvais là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai une admiration sans bord. Et puis il faut faire tous les spectacles. Enfin, quand on voit par exemple les filles dans le lac des cygnes et tout ça, tous les soirs elles restent en pause longtemps, et puis après elles dansent, et puis c'est hyper hyper dur. C'est juste deux métiers très différents, et moi je sais que j'avais une très mauvaise capacité pour ça. Faut connaître toutes les places, hein. C'est très très difficile. Et une étoile, pour moi justement, c'est quelqu'un qui est capable de sortir du rang, qui est capable aussi face à l'autorité de dire non, là je suis pas d'accord pour telle et telle raison, et pas de dire oui d'accord, parce que finalement on crée son rôle et ce qui fait qu'on va faire avancer les choses de façon artistique, c'est parce qu'on arrive avec sa perception et son authenticité. Donc peut-être que c'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps. Peut-être.
Alors sur le rôle d'étoile justement, Jocelyne de Pau a une question à vous poser. Bonjour Jocelyne.
Oui, bonjour et bonjour à votre invité. Toutes mes félicitations pour ce joli moment.
Merci beaucoup.
Je voulais savoir, vous avez un tout petit peu évoqué la question, quelles sont les obligations, s'il vous plaît, d'un danseur étoile au niveau contractuel en interne ou autre, et en matière de représentativité de l'institution et de la France ?
Alors ce qui est très important, c'est de se couper les cheveux très courts pour briller. Et avoir le crâne chaud, vous savez, qui brille, ça c'est important, on me l'a dit d'ailleurs ce matin, je suis pas parfaitement rasé. Ensuite, c'est de dire absolument du bien de l'institution, c'est très très important, sinon c'est la fin. Non, je plaisante évidemment. Écoutez, j'aurais aimé répondre à votre question de façon exhaustive. Malheureusement, je n'ai toujours pas signé encore mon contrat avec l'Opéra, ça va arriver, ça va être une discussion. En tout cas, à mes yeux, je peux pas parler pour la direction, mais à mes yeux, une étoile, comme je disais avant, ça doit être quelqu'un qui doit être un peu unique, qui doit avoir sa façon de penser, sa façon de voir l'art de façon générale. Et pour moi, une étoile, elle doit s'adresser au monde entier, donc avoir à la fois une danse universelle, mais créative, et peut-être avec un soupçon de transgressivité, pour parce que sinon, si on est dans la reproduction identique à chaque fois de tout ce qui a déjà été fait, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Donc pour moi, voilà, faut avoir un petit côté novateur, tout en conservant un minimum de cadre. Voilà. Oui. Merci à vous.
Ce titre d'étoile, effectivement, François, lui, il vous oblige quand même un peu par rapport à l'opéra. Il y a quand même une représentation sociale maintenant que vous devez défendre.
Écoutez, on va voir. je ne sais pas. J'ai pas encore eu on m'a pas mis le pistolet sur la tempe ni le couteau sous la gorge. Et je pense pas que ça arrivera de toute façon. Et puis, comme je vous disais, moi, c'est très important pour moi, ma liberté. C'est vraiment, c'est essentiel et c'est ce qui fait aussi, je pense, que ce titre m'a été décerné. C'est que, Il y a des propositions, il y a des choses un peu peut-être pas forcément habituelles, et quand je les fais en scène ou même dans la vie, dans l'institution et tout ça, et je pense que ça va amener forcément des changements. Après voilà, on va discuter. Moi je sais que toutes les portes restent ouvertes.
Alors vous êtes une étoile effectivement un peu rebelle. Vous êtes aussi inspirée par le hip-hop. Vous nous l'avez dit, tourné vos propres courts-métrages. Vous êtes en tournée en ce moment avec votre propre spectacle, tout complètement jeté. La danse classique, ça ne vous suffit pas?
Non, je suis insatiable dans la vie. Je pense que j'ai une boulimie de la vie. J'ai une boulimie de tout. J'en veux toujours plus et j'aime vibrer. Je pense que c'est propre aux hypersensibles. J'adore quand il y en a toujours plus. Je suis très curieux, donc j'adore apprendre. J'adore essayer de nouvelles choses. Et puis j'aime l'action. Donc forcément, voilà, je me lance dans plein de différents projets. Là, demain, on part à Aix-en-Provence, effectivement, pour le spectacle qui est, alors malheureusement et heureusement pour nous, complet. Donc ça, c'est génial pour deux dates. Puis après, on va revenir à Paris. On passe à Marseille aussi le 19 juin au Silo. Et non, c'est des belles aventures. Tout ça, le à la fois, je peux avoir un côté où je me dis, je suis dans une tempête et une tourmente et il y a trop. Et en même temps, il y a une part de moi qui adore ça parce que c'est hyper stimulant, toutes ces rencontres, toutes ces nouveautés en permanence. J'adore ça. Et quand je serai sur mon lit de mort, juste avant de mourir, je me dirai certainement, bon, au moins j'ai bien profité.
Et ce côté boulimique justement, cette envie de toucher à tout, il est venu aussi du confinement, de la crise sanitaire, c'est là aussi qu'il y a eu des déclics pour vous?
Absolument, ouais, ça a été vraiment, je pense que comme beaucoup de personnes, hein, il y a eu un moment de prise de conscience. Je pense que déjà la chance qu'on a eue, c'est que le gouvernement et particulièrement Roselyne Bachelot a soutenu l'opéra, ce qui nous a permis de continuer à toucher nos salaires. Chez nous, on s'entraînait chacun comme on pouvait, mais on a déjà eu cette chance-là et on a eu cette chance d'avoir un moment de pause en fait et de silence. Moi, je sais que le silence, ça a été quelque chose d'assez incroyable. Le fait de me dire, dans mon spectacle, j'en parle justement de toutes ces voix qui me parlent en permanence. Et là, le fait d'avoir un moment de paix et de silence, bah, j'ai pu enfin entendre ma propre voix et me dire, waouh, en fait, qu'est-ce qu'il y a et de quoi j'ai envie. Et je me suis même dit, en fait, j'ai jamais pensé. J'ai toujours fait, j'ai toujours agi, j'ai toujours réagi. J'ai lancé des projets, mais peut-être en réaction à des pulsions. Mais je me suis jamais posé calmement en me disant, qu'est-ce que je veux réellement faire et qui est-ce que je suis et pourquoi je suis là. Et je pense que ce confinement, moi, il m'a fait beaucoup de bien pour ça. Et c'est là où j'ai commencé peut-être à me dire, ouais, on peut peut-être aller sur autre chose. Et puis j'ai rencontré Alessandro Rodorowski par internet grâce à un ami qui vit au Venezuela. Et j'ai vraiment compris. Enfin, je sais pas, j'ai eu un déclic où je me suis dit, tu t'es toute ta vie mis des limites et des barrières qui t'ont fait avoir cette rigueur et cette discipline. Mais aujourd'hui, casse-les. Et qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire? T'as envie de faire des films? Vas-y, fais des films. T'as envie d'écrire? Écris. T'as envie de jouer au cinéma? Joue au cinéma. Et finalement, ces choses-là sont arrivées. Et je me suis dit, mais en fait, j'en suis capable. Je suis capable d'apprendre un texte. Je suis capable de jouer. Je suis capable de plein de choses. Et je me suis dit, mais si j'ai réussi à faire ça, peut-être que je peux faire plus. Et voilà. C'est vraiment ce qui s'est passé pendant ce confinement.
Alors, la rigueur et la discipline, c'est quand même aussi l'image de l'opéra de Paris. Hein. Forcément, il en faut pour y rentrer aussi. Il y a ces journées-là, tous à l'opéra, qui commencent demain jusqu'à dimanche. Oui. Ça peut aider justement à dépoussiérer, comme vous avez envie de le faire, visiblement, cette institution.
Alors, on parle souvent de dépoussiérer. Je vous assure que Garnier est très propre. C'est un très bel opéra qui est plein de dorures. Le ménage est très bien fait là-bas. Non, je pense que il y a, je dirais peut-être pas de dépoussiérer, mais je dirais de continuer à ouvrir les portes et continuer à ouvrir l'esprit des gens et de dire voilà, on peut aller à l'opéra, mais comme on peut aller au cinéma, comme on peut aller, il faut que la culture vive. Moi, c'est surtout ça, ce pourquoi je me bats. Et l'opéra, c'est une magnifique institution pour ça. Et vous parliez de l'excellence et de la rigueur et tout. C'est vrai que sans ces valeurs-là qui m'ont été inculquées et contre lesquelles j'ai pu me battre un petit peu quand j'étais plus jeune, bah finalement aujourd'hui je remercie l'opéra de m'avoir inculqué ça parce que c'est grâce à cette rigueur et à cette discipline que j'ai pu monter en toute autonomie tous mes projets à côté. Et ça, je leur dois vraiment beaucoup. Donc, oui.
Parce que votre maman a dit dans une interview à François que j'ai retrouvé, l'opéra de Paris, c'est un peu une machine à broyer les faibles. Il faut avoir le mental. Elle ne conseillerait pas forcément à ses élèves d'y aller. Vous êtes d'accord, raccord avec ça?
Ma mère a certainement repris les propos de Guylaine Tesmar, qui est une grande danseuse étoile, qui est une très bonne coach d'ailleurs, qui avait dit ça dans un reportage. C'est cette phrase de Guylaine Tesmar. Et effectivement, en fait, alors l'opéra de l'époque n'est plus l'opéra d'aujourd'hui. Ça s'est beaucoup adouci et assoupli. En revanche, effectivement, moi j'ai des souvenirs de, et l'école de danse et même dans la compagnie, il y avait quelque chose de, il y a une compétition forcément, et puis il y a en même temps, c'est très paradoxal parce qu'à la fois on est un ensemble, on fait les spectacles ensemble, donc on se doit d'avoir cette synergie et on est tous pour que le spectacle soit le mieux possible, mais en même temps chacun se dit, bah, j'aimerais bien pouvoir prétendre au grade suivant et on a envie d'avoir les rôles et on a envie de danser, donc c'est assez paradoxal et ça crée une ambiance très particulière, mais c'est ça qui fait aussi la magie de l'opéra, la passion.
François Lulle, il y a 2 ans vous déclariez à nos collègues de France Info, je ne suis pas heureux car j'ai encore des choses à me prouver. Pour l'instant, je ne suis pas fier de moi.
C'est vrai. J'espère ne jamais être fier de moi parce que le jour où on
un
se
petit
satisfait.
Peu plus avec ce titre d'étoile.
Alors très honnêtement, non, parce qu'en fait, c'est pas, comme je l'ai toujours dit, c'est pas quelque chose sur lequel j'avais de la prise finalement, parce qu'on me l'a décerné et j'en suis heureux. Mais je, comme le dit dirait les stoïciens, travaille là où tu peux avancer. Donc là où je suis plus fier de moi, en revanche, c'est le fait d'avoir entrepris des choses, les spectacles, les films, et que ça ait fonctionné, et que ça ait bien marché, et que ça m'ait ouvert des portes pour faire autre chose. Je sais que le cinéma, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et j'ai envie de continuer à aller dans cette voie-là. Donc, je pense que tout va bien.
Aux réalisateurs qui nous écoutent, oui. On leur fait un petit signe. Merci François Allu, danseur étoile donc de l'Opéra de Paris. Donc avant de vous revoir à l'Opéra, on vous retrouve pour votre spectacle Complètement Jeté. Demain, samedi à Aix-en-Provence, vous serez les 10 et 12 juin à Bordeaux, le 19 juin à Marseille et les 25 et 26 juin au Trianon à Paris. Merci beaucoup François.
Merci beaucoup, merci à vous.
France Inter, le 13-14.
Bonjour Jean Lebrun. Le vif de l'histoire dans un instant.
Céline, un inédit, c'était un écrivain qui n'était pas étranger à la danse.
Votre feuilleton du 13-14 avec le jazzman Raphaël Imbert, parti sur les traces des orchestres noirs américains d'il y a un siècle. Et tout de suite, c'est une chanson. C'est une chanson avec Frédéric Pommier et le comédien Denis Podalydès qui met en scène jusqu'au 10 juillet les fourberies de Scapin à la Comédie Française. 2022, c'est l'année Molière, les 400 ans de sa naissance. À cette occasion, rediffusion de l'émission du 16 mai 2021. Denis Podalydès au micro donc de Frédéric Pommier.
C'est une chanson de 1972 qu'a choisi de nous faire écouter Denis Podalydès, grand-père de Georges Moustaki, un homme dont la voix a bercé son enfance et son adolescence, ainsi qu'elle a bercé celle de son grand frère Bruno, comme lui acteur mais aussi scénariste et réalisateur. Les chansons de Moustaki, Bruno Podalydès les jouait à la guitare et Denis aimait les chanter, celle-ci tout particulièrement.
J'en connaissais plein par cœur. Et la chanson « Grand-père », c'était une de mes préférées. Et elle avait une fonction principale, c'était de me faire rêver à mes grands-pères, notamment mon grand-père paternel, grec, que je n'ai pas connu, qui s'appelait Nicolas Podalydès. Et cet homme est mort quand mon père avait 9 ans. Il était déjà divorcé de ma grand-mère. Et donc, cette racine grecque s'est éteinte, en fait, s'est perdue. Et quand j'ai fait un voyage en Grèce, je n'ai jamais retrouvé aucun Podalydès grec. Et donc, Moustaki était comme ça pour mon frère, pour moi, je pense, un relais entre nous et ses aïeux grecs dont on n'a connu qu'une tante.
Est-ce que ça veut dire que lui-même a incarné une figure familiale ?
Moustaki, ah oui, 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 oui. Parce qu'on l'écoutait tellement qu'il était repris par nos petits frères et par nos parents. On est d'ailleurs allé tous en famille le voir à Versailles. On est allé ensuite se faire signer des autographes en coulisses. Moustaki avait l'air assez âgé pour nous d'ailleurs. Donc je le vois plutôt en figure de grand-père. Et j'aimais bien aussi le poème de cette chanson. Oui, c'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi, tous les autres m'écoutent. J'aimais beaucoup ça, tous les autres m'écoutent, mais toi tu m'entends. Et je finirais bien un jour par ressembler à la photo où tu as posé un ancêtre. C'est drôle parce que quand je regarde la photo de mon grand-père, je trouve des ressemblances. Il faisait beaucoup le clown d'ailleurs, il faisait l'acteur. On a un tout petit film, après son divorce, il a eu la garde de mon père. Et il s'est filmé en train de faire le clown pour mon père et avec mon père. Et quand je vois ces images-là, forcément, je me suis dit, ah bah tiens, de temps, il achète aussi une caméra, donc mon frère aussi tiendrait de lui. Donc sans doute, c'est une des raisons, le premier vers, c'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi. Je pourrais très bien me le dire, même si j'ai jamais formulé cette pensée-là. Mais ce qui m'intéresse en fait dans le choix de cette chanson, c'est tout un tas de souvenirs, tout un tas de raisons inconscientes et des choses, à mon avis, parfaitement oubliées, qui ressurgissent quand j'écoute cette chanson. Avec une certaine émotion que je n'arrive pas tout à fait à identifier.
C'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi. Tous les autres m'écoutent, mais toi tu m'entends. On est du même bois, on est du même sang. Et je porte ton nom, et tu es un peu moi. Exilé de Corfou et de Constantinople, Ulysse qui jamais ne revint sur ses pas. Je suis de ton pays, mais tel que comme toi, un enfant de l'enfant que te fit Pénélope. Tu étais déjà vieux quand je venais de naître, arrivé juste à temps pour prendre le relais. Et je finirai bien un jour par ressembler à la photo où tu as posé à l'ancêtre.
Grand-père de Georges Moustaki avec l'interview de Denis Podalydès de la Comédie Française. Il signe la mise en scène des Fourberies de Scapin à l'affiche de la Comédie Française jusqu'au 10 juillet. Suite du feuilleton du 13-14 au Conservatoire de Marseille cette semaine avec Raphaël Imbert, saxophoniste, compositeur qui dirige depuis près de 3 ans l'établissement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, celui qui est aussi chercheur nous amène un peu plus loin que la Canebière, aux États-Unis, en Louisiane. Raphaël Imbert y est parti il y a une dizaine d'années sur les traces des pionniers du jazz à la Nouvelle-Orléans. Il raconte à Sarah Guibaudeau.
J'ai une vocation d'historien raté dans tout ça. C'est comme si je m'intéressais à l'histoire du catholicisme et que j'allais jamais au Vatican. J'avais besoin d'aller voir sur place. J'ai obtenu la visa Médicis en Lémur pour passer 6 mois à New York. C'était 2003. Et ça a été une expérience totalement traumatisante. Mais vraiment profondément traumatisante. Parce qu'il y avait une telle dichotomie entre ce que je trouvais dans les bibliothèques sur l'histoire, l'âge d'or de cette musique, et le formalisme académique qui était devenu le jazz dans cette ville-là, j'en étais désespéré. Et c'est là où, en réintégrant le HESS, donc l'école des hautes études en sciences sociales, en essayant d'avoir une démarche qui était liée plus à de l'anthropologie, hein, c'est-à-dire que c'est quoi la notion d'être improvisateur quand on est jazzman et tout ça, et comment elle se traduit aux États-Unis, à l'endroit où c'est né. Et là, j'ai été missionné dans le cadre, alors ça c'est 2011, pour aller dans le sud des États-Unis. L'idée de recherche aux États-Unis, c'est liée à l'histoire de la spiritualité. C'est pourquoi des musiciens qui sont liés à une histoire très profane, l'histoire de la Nouvelle-Orléans, le jazz né dans les bordels, on entend toujours beaucoup ça, les mêmes musiciens revendiquent très souvent un imaginaire spirituel assez fort, des convictions politiques assez déterminées, et je trouvais qu'il manquait des éléments. À Tulane, à la Nouvelle-Orléans, il y a toutes ces archives qui même vont jusqu'au 19e siècle, où vous voyez l'importance des églises, des sociétés initiatiques, des loges maçonniques, et c'est un peu des oubliés. Là, par exemple, je leur parle d'un aspect que j'avais découvert dans ces recherches-là, qui est l'histoire de la maçonnerie noire américaine. Et ça, on n'en parle pas dans les histoires. Moi, ça me paraissait intéressant. C'est comme si on m'en parlait pas pour Mozart, pourquoi on n'en parlerait pas pour Duke Ellington? Donc je découvre ça, j'en parle à Tulane, dans ces jazz archives, et ils me sortent des boîtes entières, de défilés maçonniques avec des orchestres de jazz qui datent des années 10, des années 20 et tout ça. Et en fait, ils m'ont dit, mais c'est la première fois qu'on nous pose la question. En fait, les documents, on les a. On sort un petit peu l'image d'Épinal du jazzman, justement pas éduqué, qui connaît pas la musique classique, ce qui est totalement faux. La plupart ont des professeurs de musique classique et tout ça. J'ouvrais une boîte de Pandore extraordinaire en faisant ça, et c'est là que je trouvais les documents qui me permettaient de montrer cette histoire. Le résumé, c'est que les musiciens de jazz sont des militants, autant des militants politiques de la cause notamment de l'émancipation. Ils se sont éduqués à ce militantisme dans le cadre de leur éducation religieuse et mystique, qu'on retrouve à l'église, dans les églises baptistes, pentecôtistes, méthodistes, et aussi dans le cadre des sociétés qui fleurissent dans tous les quartiers nord-américains au 19e et au 20e siècle. En fait, c'est les universités populaires. Pour une population à qui on refuse l'accès à l'enseignement, au savoir et tout, on constitue un enseignement parallèle grâce à autant de sociétés dans lequel les jazzmen sont très actifs. Finalement, moi, j'ai fait ce voyage-là pour recueillir des documents. Il y en a beaucoup qui l'ont fait pour y rester. Actuellement, à New York, par exemple, il y a toute une communauté de musiciens français qui sont très actifs sur la scène jazzistique à New York. Pareil à la Nouvelle-Orléans, et en fait, un peu pareil sur tous les États-Unis. La Nouvelle-Orléans est une ville d'inspiration absolument incroyable. Vous avez toutes les musiques qui sont présentes. C'est la ville au monde où il y a le plus de musiciens professionnels au nombre d'habitants. C'est une source d'inspiration incroyable, même s'il y a une difficulté de vivre son art là-bas qui est absolument colossale. Il y a une phrase quand même qui est souvent dite là-bas, c'est « Aux États-Unis, on aime la musique, mais on n'aime pas les musiciens ». Et les musiciens américains qui, eux, venaient s'installer en France, ils vivaient le contraire. La France, c'est l'endroit où le musicien est respecté. C'est le deuxième pays du jazz. On a accueilli énormément de musiciens, notamment des musiciens noirs américains, qui vivaient ici un respect de l'artiste qu'ils ne pouvaient pas avoir aux États-Unis.
Le feuilleton du 13-14 avec Sarah Guibaudot au Conservatoire de Marseille avec Raphaël Imbert cette semaine. Réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire, Jean Lebrun, retour à l'été 2021. Et cette réapparition, c'est le terme employé par les ayants droit de Céline, d'un ensemble des manuscrits de l'auteur. Réapparition rocambolesque, vous allez y revenir. Ces manuscrits représentent pas moins d'un mètre cube de papier. Céline les a abandonnés à l'été 1944. Il craint alors la libération et fuit Paris pour l'Allemagne. Il laisse les feuilles dans son appartement, en haut d'une armoire. Et aujourd'hui, 5 mai 2022, est publié le premier de ces manuscrits. La suite est annoncé pour les deux ans qui viennent.
Alors j'aurais pu vous parler des quelques 250 feuillets de guerre qui sont maintenant disponibles. 6 séquences, le récit de la blessure reçue par Céline en octobre 14 sur le front belge et la suite. Mais l'entretien d'Henri Godard dans le Figaro m'a fait sursoir. Godard, c'est l'un des responsables de l'opération publication chez Gallimard. Il explique que ces pages, pourtant rédigées après le voyage au bout de la nuit, sont presque laborieuses. Céline est conscient de ce à quoi il veut arriver. L'écriture ne serait pas encore en place. Alors du coup, j'ai préféré vous rappeler les circonstances de la découverte de ces textes, parce que c'est plus romanesque.
Alors, premier personnage, les ayants droit qui président à cette édition.
Alors, Madame Céline, d'abord, c'est une femme qu'on se souvient, comme dirait son mari. Lucette, extravertie, généreuse de son temps, a longtemps enseigné la danse dans le pavillon délabré du couple à Meudon. Elle est morte à 107 ans, 2019. Véronique Chauvin-Robert, l'une de ses anciennes élèves, est la première des ayants droit. Et le second, c'est l'avocat François Gibault, maintenant nonagénaire, crâne lustré, silhouette de cavalier apparemment. Un ascète, sa famille possédait le cinéma à la Pagode, il y aurait volontiers vécu en robe de mandarin ou en professeur de yoga. Mais il a eu tant d'autres existences qu'il évoque dans des livres composés comme des musées lapidaires. Juste pour vous étonner, hein, Jacqueline, il a été le compagnon, écoutez bien, du mari de François Sagan, j'ai bien dit, et le protecteur du fameux boys band de la fin du dernier millénaire, les To Be Free, on le surnommait le To Be Fort. Le boys band a même pris des cours de danse chez Madame Céline.
Non.
Ouais.
Alors au sujet des manuscrits, il parle, lui, dans l'avant-propos qu'il donne à Guerre de Découverte. Découverte venue d'un outsider étranger aux études céliniennes.
Oui, un homme issu d'un tout autre milieu, un ancien journaliste de Libération, Jean-Pierre Thibaudat. Alors si on en croit sa version de la Découverte, Thibaudat aurait reçu les manuscrits des mains d'un lecteur de son journal qu'il ne veut pas identifier. Appartenait-il, ce lecteur, à la famille d'un certain Rosimbly, FFI d'occasion, réputé avoir visité l'appartement de Céline après la Libération? Secret des sources du journaliste, objecte Thibaudat. Ce lecteur lui aurait demandé de garder les manuscrits au secret jusqu'à la mort de Madame Céline, qui ne voulait pas enrichir. Thibaudat a classé les documents, les a transcrits, tout ça dans la plus grande discrétion, sans tirer de profit commercial de son travail. Son intention était de les remettre à un établissement public et son désir d'être associé à leur édition critique. Après le décès de Madame Céline, il est allé voir un avocat bien connu, Emmanuel Pierra. Les deux hommes ont rencontré des ayants droit, mais rapidement les choses ont tourné vinaigre. Les ayants droit, qui ne pouvaient que l'emporter au nom du droit de propriété, ont obtenu que les manuscrits leur reviennent. Ils ont été déposés au siège de la police spécialisée en la matière. 3 sacs Carrefour pleins.
Le vocabulaire utilisé pour raconter cette affaire mérite aussi notre attention, Jean.
Oui, parce que c'est à se demander si celui de Céline ne contamine pas tout l'espace aujourd'hui. Thibaudat deviendrait presque un malfaiteur. Ce Thibaudat, écrit le Figaro. Tandis que son ancien journal, Libé, ne se soucie guère de le défendre. Alors moi, je voudrais rappeler qu'il a été un des rares vrais critiques de théâtre de son époque. Un long moment, correspondant incomparable à Moscou. Il disait qu'en Russie, il n'y a pas de province, mais l'infini. Qui d'autre que lui pouvait nous faire prendre le train de Khabarovsk à Komsomolsk sur Amour? Il y fallait de la vertu républicaine et il n'en manque pas. Et je voudrais aussi rappeler un fait. Parmi ceux que Céline avait soupçonné de pillage, il y eut Yvon Moranda, compagnon de la Libération. Il avait en effet bénéficié de l'usage de l'appartement de Céline, justement réquisitionné. Il a proposé à l'écrivain en exil de lui restituer d'autres papiers qu'il y avait trouvés. Il a pris soin de transférer ses affaires au garde-meuble. Et qu'a dit Céline, qui le traitait de colonel Moïse, parce que pour Céline, un résistant était nécessairement un juif. Le colonel Moïse a conçu un enfant dans mon lit et il a refusé toutes ses propositions. Les juifs spoliés pendant l'occupation n'avaient pas fait nécessairement l'objet d'autant de
de sollicitude.
Guerre, donc, de Céline qui paraît chez Gallimard dans une édition établie par Pascal Fouché. Merci Jean Lebrun. Dans un instant, La Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jacqueline Fardel.
Vous êtes encore dans la Drôme aujourd'hui?
Absolument. On vous salue depuis L'Oriole dans la Biovallée, au milieu des arbres fruitiers.
À tout de suite.
La compagnie aérienne Air Transat lance la promo Summer Vibes et vous rappelle qu'au Canada, il n'y a pas de baleines, mais il y a des baleines. Il n'y a pas de forêt, mais il y a du bois en masse. Il n'y a pas de foot, mais il y a du soccer. Et surtout, il y a Air Transat qui propose des vols directs pour le Canada de 8 villes françaises à partir de 249 € aller-retour avec sa promo Summer Vibes. Réservation dans votre agence de voyage ou sur airtransat.fr. Air Transat, en route pour de nouveaux souvenirs au Canada. Summer Vibes, ambiance estivale.
Les viandes de bœuf Label Rouge, par ceux qui en parlent le mieux.
Pour une bonne viande de bœuf Label Rouge, c'est simple. Il faut des animaux de nos terroirs, bien élevés, tout au long de l'année. Et puis aussi des éleveurs qui font leur métier avec passion et exigence. Et le plaisir, il est là, dans l'assiette.
Et donc vous êtes éleveur?
Pas du tout, je suis artisan. Mais manger mieux, ça me parle. Et offrir une juste rémunération à nos éleveurs aussi. Pas vous?
Les viandes de bœuf Label Rouge, le plaisir de manger mieux.
France Inter, il est 14h.